Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, et bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 30 octobre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les nouvelles sanctions des États-Unis contredisent leur volonté de revenir sur l'accord nucléaire, a dénoncé le porte-parole de la diplomatie iranienne. Au Yémen, Nasrallah se rend maître du sud de Marib et le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle pour un an le mandat de la mission de l'ONU au Sahara occidental. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi 29 octobre que les nouvelles sanctions américaines imposées contre le programme de drones militaires de Téhéran contredisaient les déclarations de Washington selon lesquelles il souhaite un retour à l'accord nucléaire iranien de 2015. L'imposition de nouvelles sanctions reflète le comportement totalement contradictoire de la Maison-Blanche qui parle de son intention de revenir dans l'accord sur le nucléaire et continue d'imposer des sanctions, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. De telles mesures s'inscrivent dans le cadre de la politique ratée de pression maximale de l'administration Trump, politique qui n'apporterait à Washington que de nouveaux échecs, comme par le passé. Les États-Unis ont adopté vendredi 29 octobre des sanctions à l'encontre de personnes physiques et morales associées à des programmes de véhicules aériens sans pilote, drones, de l'Iran. Dans un communiqué, le département du Trésor américain a indiqué avoir placé sur ses listes deux entreprises et trois particuliers ayant fourni un soutien critique au programme de drones des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Le général de brigade Saïd Arajani, directeur du commandement des drones du CGRI, a également été placé sur la liste noire pour son rôle de commandement dans les opérations de drones. La prolifération de drones iraniens dans la région menace la paix et la stabilité internationale. L'Iran et les combattants qu'ils manipulent ont utilisé des drones pour attaquer les forces américaines, nos partenaires et des convois internationaux, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor américain. Le Trésor continuera de tenir l'Iran responsable pour ses actes irresponsables et violents. L'Iran a rejeté à plusieurs reprises de telles allégations, insistant sur le fait que ses avancées dans les secteurs militaires et défensifs ne sont pas destinées à des fins agressives et ne servent qu'à des fins de dissuasion. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bareilly Kani, a rencontré vendredi 29 octobre à Moscou son homologue russe et négociateur en chef pour l'accord nucléaire de 2015, Sergei Ryabkov, pour discuter des mécanismes de levée des sanctions illégales imposées au peuple iranien. La rencontre entre M. Barelikhani et la délégation l'accompagnant avec le chef adjoint de la diplomatie russe avait pour objectif de partager des points de vue sur les négociations visant à lever les sanctions oppressives contre la nation iranienne prévues à Vienne. Sur la base d'un accord conclu avec les 4+1, les 5 parties restantes au pacte multilatéral sur le nucléaire de 2015, à savoir Chine, Russie, France, Royaume-Uni, plus Allemagne, des négociations bilatérales avec chacun de ces pays seront organisées pour partager leur point de vue sur la levée des sanctions oppressives contre la nation iranienne. Dans ce contexte, à l'invitation de Sergueï Ryabkov, le premier cycle de pourparlers s'est tenu vendredi 29 octobre avec la partie russe. Au cours de leur entretien, les deux parties ont souligné que les nouveaux pourparlers ne seront aboutis que si et seulement s'ils conduisent à la levée des sanctions et à la pleine mise en œuvre des engagements des parties liés à l'accord. Les combattants d'Ansarallah continuent de faire une progression dans la province de Marib, dans le centre yéménite, où les forces soutenues par les Saoudiens semblent être au bord de l'effondrement. Le 29 octobre, les combattants d'Ansarallah ont repris aux spires pro-Hadi et aux éléments du parti al-Isla la ville d'Al-Jaracha, située à environ 35 km au sud de la ville de Marib. Selon le rapport, l'armée et Ansarallah du Yémen sont désormais pleinement déployés dans la région d'Al-Jaracha. Une source yéménite a déclaré à la télévision libanaise Al-Mayadin que les combattants d'Ansarallah s'étaient emparés d'Al-Jaracha à la suite d'intenses affrontements avec les forces pro-Hadi et les mercenaires de l'Arabie saoudite qui n'ont pas réussi à s'emparer de la ville malgré le soutien aérien rapproché de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Les derniers développements dans le nord d'Alep, entre autres le déploiement d'équipements par les militaires turcs et les FTS dans la région, indiquent que la Turquie veut lancer des opérations militaires contre les FTS sur l'axe d'Altamar. Le déploiement d'équipements par les militaires turcs et les FTS indique que la Turquie veut lancer des opérations militaires contre ce groupe sur l'axe d'Altamar. L'armée turque a intensifié ses attaques contre les centres de rassemblement des FTS, Forces démocratiques syriennes, à la périphérie de la ville de Taltamar, au nord-ouest de Hasaka. Simultanément, les deux parties ont envoyé équipements et forces militaires dans la zone où un conflit sérieux se déclare dans peu de temps. Des sources bien informées ont rapporté que des responsables de l'armée et du renseignement turc ont rencontré les dirigeants du groupe syrien de l'armée nationale pour discuter de l'opération que la Turquie entend mener dans le nord et le nord-est de la Syrie. Après la menace turque d'opérations militaires contre les FTS, les deux parties ont déployé de nombreux équipements militaires dans ces zones et il est prévu que ces opérations se concentrent à Tal Rifat, Mabij, à l'ouest de l'Euphrate, Ain al-Arab, Taltamar, Ain Issa et Al-Malikiya. Dans la région de Jazira, les États-Unis volent du pétrole syrien. Les forces d'occupation américaines ont fait sortir un convoi chargé du pétrole syrien volé des territoires syriens vers le nord de l'Irak via le poste illégal d'Al-Walid dans la banlieue d'Al-Yaroubiya, au nord-est de la ville de Hasaka, annonce l'agence de presse officielle syrienne SANA. Des sources locales de la banlieue d'Al-Yaroubiya ont fait savoir à la correspondante de Sana qu'un convoi appartenant aux forces d'occupation américaines composé de 33 véhicules, dont des camions citernes chargés du pétrole volé de la région syrienne d'Azira, s'était orienté ces dernières heures vers les territoires irakiens via le poste illégal d'Al-Walid. Les sources ont indiqué que le convoi avait été accompagné d'un certain nombre de véhicules 4x4 dotés de mitrailleuses appartenant à la milice des FTS, les forces démocratiques syriennes, soutenues par l'occupant américain qui a fait sortir ces dernières 24 heures plus de 100 véhicules vers les territoires irakiens via le poste illégal d'Al-Walid, ajoute l'agence de presse syrienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi, par 13 voix et 2 abstentions, une résolution visant à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, MINURSO, pour un an, soit jusqu'au 31 octobre 2022. Elle met l'accent sur la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, praticable, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental sur la base d'un compromis et demande aux parties de reprendre les négociations sans condition préalable et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La résolution réaffirme aussi la nécessité de respecter pleinement les accords militaires conclus avec la MINURSO concernant le cessez-le-feu et exhorte les parties à se conformer pleinement à ces accords et à s'abstenir de toute action qui pourrait saper les négociations facilitées par l'ONU ou déstabiliser davantage la situation au Sahara occidental. Le Sahara occidental a été partagé entre le Maroc et la Mauritanie à la fin de la domination coloniale espagnole en 1976, lorsque la Mauritanie, sous la pression de la guérilla du Polisario, a abandonné toutes les revendications sur sa portion en août 1979. Le Maroc a occupé ce secteur et a depuis affirmé son contrôle sur l'ensemble du territoire. Des combats ont éclaté entre le Maroc et le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël. Quatre coups fatals iraniens. Dans un rapport analytique, le journal Al-Rutsal Arabi a fait allusion à la possibilité d'une confrontation militaire entre l'Iran et Israël, sans manquer de souligner que depuis une décennie, l'Iran est à l'origine de 80% des défis qui menacent la sécurité d'Israël. Au moins quatre menaces directes peuvent être identifiées. La première menace provient du Hezbollah, contrôlé par l'Iran. La seconde est la tentative de l'Iran de créer une force militaire en Syrie, similaire à celle du Hezbollah libanais. La troisième est la tentative de l'Iran de lancer une cyberattaque contre Israël. Et la quatrième est la capacité de l'Iran à attaquer Israël à l'aide de missiles de croisière et de drones armés en provenance de Syrie, d'Irak et de Yémen. Aujourd'hui, bien que l'Iran et les États-Unis déclarent vouloir revenir à l'accord nucléaire, le fossé entre eux semble insurmontable. L'Iran insiste sur trois points. Premièrement, une reprise des négociations n'est possible qu'après la levée des sanctions américaines. Deuxièmement, tout ce qui a été acquis ces dernières années dans la production et le développement de la technologie nucléaire, y compris de grandes quantités d'uranium enrichi, reste inchangeable. Et du point de vue de l'Iran, cela n'est pas négociable. Troisièmement, les restrictions sur le programme nucléaire iranien, conformément au plan d'action global commun, sont pour une durée de 10 ans qui expireront en 2025 et l'Iran s'attend à opérer librement à partir de cette date, peut-on lire dans l'article d'Al-Rutsal Arabi. Et le journal d'ajouter. Bien sûr, ne pas parvenir à un nouvel accord est beaucoup plus probable que d'y accéder et de résoudre les différends. Cette situation nous ramène à 2011 et pose de diverses menaces, dont deux scénarios qui mettent en garde contre une confrontation militaire avec l'Iran. Le premier scénario prévoit une attaque directe contre Israël avec des missiles et des drones utilisés par des groupes sous commandement iranien, similaire à l'attaque menée il y a 2 ans contre les installations pétrolières d'Aramco, paralysant la production du pétrole en Arabie Saoudite pour une durée considérable. Le deuxième scénario concerne la question du nucléaire iranien. Si aucun accord n'est trouvé entre les États-Unis et l'Iran, Israël pourrait chercher à attaquer les installations nucléaires iraniennes. Exposé aux missiles iraniens, Israël ne cesse de prétendre paralyser le gouvernement iranien par des cyberattaques, indiquent certaines sources. Même le journal Haaretz n'hésite pas à ridiculiser cette allégation. Le journal israélien a qualifié de « pensée chimérique » l'idée du régime sioniste selon laquelle il pourrait renverser le gouvernement de la République islamique d'Iran par des cyberattaques. Si les récents événements liés à la cyberattaque contre les stations-service en Iran sont l'œuvre d'Israël, Cela reflète l'échec d'Israël par son activisme, a écrit Haaretz. Certains prétendent que les cyberattaques saperont la stabilité du gouvernement iranien. Pour le moment, cet argument ressemble à de la pensée chimérique. Il est vrai que de telles attaques causeront des problèmes à l'Iran, mais il est très douteux que ce chaos constitue une menace pour le gouvernement iranien, note le journal israélien Haaretz.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le Hezbollah libanais a salué la prise de position courageuse exprimée par le ministre libanais de l'Information, Georges Rodaï, concernant son appel à la fin de la guerre d'agression de saoudienne contre le Yémen. Le Hezbollah salue la prise de position courageuse et honorable du ministre de l'Information, M. Georges Rodaï, relevant de son expérience médiatique, de son moral et de son patriotisme dans la défense du peuple yéménite opprimé. Il a bien fait de qualifier d'agression la guerre saoudo-émiratique qui a conduit à des effusions de sang, tuant des centaines de milliers de personnes et assiégeant tout un peuple menacé par la famine et les médias, écrit dans son communiqué le Hezbollah libanais. Pour rappel, au cours d'une interview accordée lors de l'émission Parlement du peuple, le ministre libanais de l'Information, c'était en fait le lundi 25 octobre sur les réseaux sociaux de la chaîne Qatari, qui a été cette interview diffusée sur les réseaux sociaux de la chaîne Qatari Al Jazeera. Il était interrogé sur le Yémen et il avait qualifié d'absurde la guerre saoudo-émirati qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de yéménites, appelant à son arrêt immédiat. Il a également affirmé que la résistance yéménite, les Houthis, Ansar Allah, se défendaient face à l'agression contre leur pays. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi pour cette émission, depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arne de Volley. Maître de Volley, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, je ne vous vois pas, mais je vous dis bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volley, c'est un autre juriste français et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Alsace. Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Parfaitement.
Et merci infiniment, Maître Chamy, d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour participer à cette émission, le débat consacré à ce qui se passe actuellement au Liban concernant les récentes déclarations du ministre libanais de l'Information. Le Hezbollah libanais, je viens de le dire tout à l'heure, Maître Chamy, a salué la position courageuse du ministre libanais de l'Information qui fait, disons-le, l'objet de ces jours-ci des critiques, si vous voulez, de la part de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, certaines voix à l'intérieur du Liban et également certains des autres régimes arabes dans la région. Comment vous l'expliquez de cette situation qui prévoit actuellement au Liban, Maître Chamy?
Vous savez, le Liban aujourd'hui, on peut le dire comme ça, hein, il est divisé. Hein, il y a les pro-saoudiens et les anti-saoudiens. Et aujourd'hui, ils veulent la peau du ministre de l'Information parce que justement, il avait pris avant de prendre la charge du ministère de l'Information, il a pris cette déclaration en disant bah, il trouve ça innommable ce qui se passe au Yémen, il ne comprend pas que cette agression puisse continuer. Et en tout cas, il a donné son point de vue qui me paraît parfaitement légitime. D'abord, en tant qu'homme des médias, Il ne faut pas oublier quand même que c'est un homme de médias à l'origine, M. Khatami. Il est très connu, il est très, je dirais, très implanté localement, et il a une opinion, comme tout un chacun, mais à plus forte raison quand vous êtes connu pour diffuser une information. À ce moment-là, vous donnez votre avis éclairé. Les gens vous écoutent ou pas, les gens vous suivent ou pas, mais c'est ça le principe de la liberté d'expression. Le fait qu'on sorte cette déclaration-là une fois que le gouvernement est constitué, alors que ces déclarations étaient connues, ces déclarations étaient diffusées dans les médias, ce n'était pas en circuit privé où il était chez lui en train de discuter avec des copains, c'était quelque chose qui était considéré comme une déclaration publique. Pourquoi maintenant on le sort? Tout simplement pour perturber ce qui se passe aujourd'hui là, sur la scène libanaise, parce que n'oublions pas que sur la scène libanaise, il y a une enquête sur un massacre en bonne et due forme qui a été commis par les milices de la force libanaise. Ces milices-là ont exécuté, dans le sens exécuté de manière criminelle, des manifestants civils non armés qui défilaient en toute sécurité et pacifiquement pour justement contester la manière dont se déroule l'instruction sur l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth à travers le juge Bitard. C'est une manifestation pacifiste qui avait toutes les raisons de continuer son chemin sans difficulté, sans problème. Et les forces de sécurité étaient informées, l'armée était informée. Les forces libanaises, leurs milices, qui sont connues pour leurs crimes et leurs crimes de guerre, et ce depuis les années 70 jusqu'à, entre guillemets, la fin de la guerre du Liban, et notamment jusqu'à l'emprisonnement de leur patron qui est le fameux Jaja, que tout le monde appelle médecin alors qu'il n'a rien d'un médecin, il n'a jamais fait d'études de médecine, il a dû atteindre la deuxième ou la troisième année, il n'a jamais été médecin de quoi que ce soit, mais il n'en restait pas moins qu'au-delà de l'usurpation de qualité, il usurpe la qualité de patriote alors qu'il n'a rien d'un patriote. C'est un homme des Israéliens, c'est l'homme des Israéliens dans le coin, et aujourd'hui il est devenu le multiple multicarte de tous ceux qui complotent contre le Liban. Il est pour les Américains, il est pour les Saoudiens, il est pour les Israéliens. En tout cas, il est contre la résistance. Il est contre tout ce qui peut constituer un front contre l'antisioniste, parce que lui, il a toujours été leur complice. Il a exécuté les Palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila parce qu'il était à la solde des sionistes. Et aujourd'hui, il exécute également les civils du quartier sud de Beyrouth, parce qu'il est à la solde et des Américains, et des Saoudiens, et des Israéliens. Maintenant, ça commence à bien faire. Il est temps qu'il se fasse juger et qu'il soit condamné pour ses crimes, parce que maintenant, apparemment, les enquêteurs de l'armée libanaise, en qui il était censé avoir confiance jusqu'à présent, et les enquêteurs de haut grade ou de haut niveau de la justice libanaise, et notamment la justice militaire, qui n'a jamais été mise en cause jusqu'à présent, sont parvenus à mettre en cause son organisation dans tous les sens du terme de ce massacre, parce que tout est parti de chez lui. Dès la veille, tous les rôles étaient distribués, les armes ont été distribuées, l'emplacement que les francs-tireurs, ou en tout cas les snipers, devaient prendre avait été organisé à sa demande et sur instruction de sa part. Aujourd'hui, évidemment, venir reprocher au ministre de l'Information contre le Yémen par l'Arabie Saoudite, ça s'appelle une sorte d'écran de feu ou écran de fumée, pour éviter qu'on parle du vrai sujet, parce que dans les médias actuellement, il y a ce qu'on appelle l'effacement de l'information précédente par une nouvelle information. Là maintenant, l'information importante, qui était le massacre de Taïouné sur des civils qui défilaient, se trouve automatiquement reléguée au deuxième plan par l'information sur le fameux ministre de l'Information. Là, on utilise ça comme prétexte pour couvrir le chef de la milice des forces libanaises. Il est temps maintenant que les points sur l'i soient mis et qu'on revienne à la discussion réelle, c'est-à-dire qui était le responsable de ce massacre, qui est nettement plus important que les déclarations d'un homme des médias, quel qu'il soit, fût-il ministre actuel. Mais quand il a fait la déclaration, il n'était pas ministre. Mais même s'il était ministre, il a encore le droit de s'exprimer. Nous sommes dans un État souverain, jusqu'à preuve du contraire, et dans un État souverain, les ministres ont le droit de s'exprimer. Ils s'engagent personnellement ou ils engagent leur gouvernement, peu importe. Mais lui, il n'a engagé que sa personnalité, que ses propres déclarations. Il n'a pas engagé le gouvernement. Par conséquent, il est temps maintenant que cela cesse et qu'on passe à une autre polémique, en tout cas à une véritable polémique par rapport au rôle du chef du ministre des forces libanaises, et que les responsabilités soient établies et que les personnes concernées soient jugées.
Maître Develé, je vous ai vu en fait écouter attentivement les propos de votre confrère, Maître Chami. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Écoutez, je partage complètement l'analyse de Maître Chami. Je dirais même d'ailleurs qu'il s'agit d'une polémique qui remplace une polémique qui remplace une polémique, puisque n'oublions pas que la marche pacifique qui a été réprimée dans le sang par les milices de Raja manifestait pour que toute la lumière soit faite sur la transparence qui devrait normalement prévaloir au sein de cette enquête menée par le juge Bitar concernant les événements du port. Donc vous voyez, on avait un homme politique en France qui s'appelait Charles Pasqua qui avait pour coutume de dire que quand une affaire embêtante semble se manifester, ce qu'il faut, c'est créer une affaire dans l'affaire et une autre affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. C'est exactement ce à quoi nous assistons au Liban. Et dans ce contexte-là, je suis tout à fait d'accord avec Maître Chami, il faut arrêter les polémiques stériles. Le ministre de l'Information, non seulement a le droit de s'exprimer sur des sujets contemporains, des sujets graves de notre temps, mais qui plus est, si on s'en réfère à la teneur des propos et au moment où ils ont été tenus, ils n'étaient même pas en fonction. Donc on peut penser qu'en tant qu'homme de médias, effectivement, il a tout à fait le droit et la prérogative de pouvoir s'exprimer sur ce type de sujet, mais effectivement, on voit très bien que la manœuvre, si je puis dire, c'est de déstabiliser le gouvernement par tous les moyens pour empêcher que, justement, ces enquêtes, ces phases processuelles puissent suivre leur cours et révéler ce qui doit être révélé. Donc, dans ce sens-là, c'est un petit peu une continuation de ce que un invité de votre antenne appelle la guerre hybride. C'est une continuation de la guerre hybride. La guerre hybride, c'est la guerre de l'information, c'est la guerre asymétrique, c'est la guerre au travers du droit, c'est tout un tas de multiplicité dimensionnelle qui permet à tout un tas d'acteurs et d'agents d'influence d'avancer les pions d'intérêts beaucoup plus larges derrière. Et nous assistons au Liban à cette cristallisation de cette guerre hybride. Et dans ce sens-là, cette tempête dans un verre d'eau, si je puis dire, concernant les déclarations du ministre de l'Information ne sont que une dernière instance de ce processus. Mais je dois dire que cette polémique révèle surtout une chose, c'est que ce soit les intérêts atlantistes ou les intérêts israéliens au travers de leurs agents au Liban, la qualité n'est pas très bonne et ça laisse entendre qu'ils sont plutôt le dos au mur et que le temps ne joue pas en leur faveur.
Est-ce que vous aussi, vous estimez, Maître Chami, tout comme Maître Develé, en fait, ceux qui cherchent actuellement à déstabiliser le Liban sont, en fait, ceux le temps ne joue pas en faveur, si vous voulez, de ceux qui cherchent actuellement à déstabiliser le Liban, à déstabiliser le gouvernement. Pourquoi, en fait, c'est pourquoi on assiste à ce genre d'agissement, si vous voulez, de leur part?
Moi, je dirais que l'affaire est beaucoup plus grave qu'une simple déstabilisation. Le problème, pour moi, c'est qu'on est en train de créer un climat de guerre civile. Il faut dire et il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, nous sommes dans un climat de guerre civile, c'est-à-dire la volonté est d'impliquer le Liban dans une grande guerre civile. Et l'un des spécialistes de la guerre civile, c'est Jaja. Indiscutablement, c'est Jaja. Une fois qu'une milice a commencé, évidemment, d'autres pourraient suivre. Il y a quand même au Liban un certain nombre d'hommes politiques qui vivent grâce à l'odeur du sang. Il faut le rappeler parce que c'est une nécessité, ne serait-ce que pour la mémoire du peuple libanais. Le Libanais est devenu en quelque sorte amnésique et ne se rappelle pas que hier il est sorti de la guerre civile, et il peut replonger à tout moment. S'il laisse place à l'instinct, à la sauvagerie, je dirais à l'animal qui sommeille en lui, on aboutira à une guerre civile. On a une chance inouïe, c'est que ceux qui peuvent mener la guerre civile, ou en tout cas mener la guerre à l'intérieur du Liban, ne veulent pas le faire. Et je nomme clairement l'axe de la résistance, c'est-à-dire le Hezbollah et ses alliés. Ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle le chef de Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a eu un mot qui a tranché clairement en disant à Jaja que tu prétends avoir 15 000 combattants et tu disais que maintenant c'est le moment d'attaquer le Hezbollah pour créer justement cette guerre civile, pour qu'il y ait des camps et des barricades et des tranchées entre les quartiers et les villes. Sache que nous avons plus de 100 000 hommes, c'est-à-dire tes 15 000 hommes ne serviraient à rien. Nous trancherons rapidement et nous pourrons régler ce problème très rapidement. Par conséquent, ne tente pas le diable. Et je pense que cette phrase-là a marqué les esprits. C'est la raison pour laquelle les militants pro-force libanaise, à ce moment-là, ils ont passé des déclarations concernant la menace d'une guerre civile qui a été animée, orchestrée par Jaja et dite de manière claire et non contestée. Il ne l'a jamais démenti. Ils l'ont déplacé en disant « Regardez voir, on avait raison de se préparer puisque le Hezbollah a 100 000 combattants. » Non, il a utilisé le terme « 100 000 combattants ». Pourquoi ? Pour dire à Jaja « Tu ne feras pas le point, reste tranquille, sois sage et nous, on n'a pas l'intérêt intérêt à rentrer dans cette guerre-là. De toute façon, nous ne la voulons pas. Nos combattants et nos soldats sont destinés à combattre l'ennemi sioniste et l'ennemi terroriste. » Jusqu'à maintenant, on te considère comme un concitoyen, comme un compatriote, mais si tu continues de faire l'imbécile, eh bien entendu, tu seras traité comme si tu étais un agent israélien ou si tu étais un agent des groupes terroristes. C'est aussi simple que cela. Si Jaja ne l'a pas compris, à mon avis, il finira par le comprendre, parce qu'il y a des gens quand même autour de lui qui lui diront qu'on ne va pas impliquer toute une région, toute une zone dans une guerre éclair qui pourrait être menée à ce moment-là, comme cela s'est passé au 7 mai il y a quelques années. C'est considéré comme une date symbolique pour les opposants au Hezbollah. À l'époque, en 48 heures, l'affaire a été pliée et bien entendu, la sécurité a été rétablie et toute menace contre la résistance a été stoppée. Et là, évidemment, une décision comme celle-ci pourrait être prise. Tout le monde essaie de l'éviter. Le Hezbollah, le premier, mais si Jaja veut aller dans son projet destructeur, criminel, assassin pour la population libanaise, il y aura immédiatement, à mon sens, et de manière très éclair, une façon pour arrêter tout ça et bien entendu mettre un terme à ces exactions et en tout cas à ces tentatives de mener une guerre civile au Liban, qui n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il est dans une guerre économique, il est dans une guerre sociale, il est dans une guerre destructrice de toute la population libanaise. Maintenant, le Liban ne supportera plus, encore plus, une guerre civile.
Maître de Volley, pensez-vous qu'il y a une piste étrangère dans ces actes de provocation dont Maître Chami vient de mentionner? Est-ce qu'il y a une piste étrangère également pour, si vous voulez, déclencher de telles polémiques au Liban dans l'état actuel des choses?
Oui, il est évident que Jaja et ses acolytes n'auraient pas d'eux-mêmes pris l'initiative qu'ils ont menée il y a une semaine de cela. Visiblement, les événements qui ont mené à l'assassinat de sept personnes avec d'autres blessés, avec peut-être pendant en tout cas 72 heures, le pays a retenu son souffle. Cela a coïncidé avec effectivement la visite à Beyrouth de l'ancienne coordinatrice, si je peux dire, des événements du Maïdan en Ukraine en 2014, Victoria Nuland. Victoria Nuland, pour nos téléspectateurs, est numéro 3 au département d'État. Elle a été et elle reste toujours l'épouse du pape du néoconservatisme, Frédéric Kagan. Donc ces gens-là sont des déstabilisateurs professionnels. Ils savent parfaitement comment appuyer sur les failles dans divers théâtres d'opérations afin de déclencher des conflits, des révolutions colorées. Et je pense que dans ce contexte-là, c'était l'opération qui était visée. effectivement, dans la politique du pire qui les caractérise, l'élément déclencheur était effectivement les forces libanaises qui, pour des raisons historiques, Maître Chami l'a rappelé, ont toujours eu quelque part un désir de revanche, puisqu'ils sont historiquement, dans la mémoire collective du Liban, fondamentalement considérés comme des gens qui n'ont pas l'unité du Liban ou la souveraineté du Liban comme premier intérêt. Donc, nous sommes parfaitement, effectivement, dans une situation, comme vous l'avez souligné. Les Saoudiens ont certainement des éléments à faire valoir. C'est pour ça qu'on a maintenant cette histoire avec le ministre de l'Information. Vous voyez, tout est fait pour essayer de fracturer la société libanaise sur des points les plus insignifiants et concernant des dossiers qui, en tant que tels, n'ont rien à voir avec la situation d'urgence auquel fait face le peuple libanais au jour d'aujourd'hui.
Et Maître Chami, en fait, le Hezbollah, dans son communiqué, qualifie, si vous voulez, de politiciens libanais de vendus et faibles d'esprit en disant que voilà, leur position constitue une insulte au Liban, à son peuple, à sa souveraineté et à sa dignité nationale.
Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question parce que c'était brouillé.
En fait, le Hezbollah libanais, la résistance toujours dans son communiqué, qualifie, si vous voulez, ces politiques de faibles d'esprit dont la position constitue une insulte au Liban, de son peuple, à sa souveraineté et à sa dignité, Maître Chami.
Évidemment, quand on s'en prend à une personne en raison de ces déclarations, alors qu'on nous bassine matin, midi et soir de liberté d'expression, que les peuples doivent se libérer, regardez voir ce qu'ils ont fait comme massacre aussi en Syrie, ce qu'ils ont généré comme désastre en Irak, ce qu'ils sont en train de faire dans tous les pays du monde d'ailleurs, et plus particulièrement dans le monde arabe, une part de liberté d'expression, etc. Et aujourd'hui, un ministre, en tant que citoyen, il s'exprime, et ben, c'est toute la classe politique pro-saoudienne qui commence à vociférer, à réclamer sa tête pour aboutir à quoi ? À la chute du gouvernement, parce que le gouvernement libanais est un gouvernement d'équilibre. À partir du moment où vous en prenez à l'un des membres de ce gouvernement, ça veut dire que vous êtes en train de mettre en cause tout cet équilibre-là, c'est-à-dire la paralysie du gouvernement, l'impossibilité de mener des actions, l'impossibilité de mettre en place un projet et l'impossibilité d'avoir la confiance des instances internationales pour éventuellement obtenir les aides, construire des projets pour l'avenir, rétablir un semblant d'économie, etc. C'est-à-dire que c'est tout le pays qui se trouve paralysé. Et c'est ça que je trouve assassin. Et en même temps, expliquez-moi pourquoi l'Arabie Saoudite commence à prendre des sanctions contre le Liban alors qu'il s'agit d'un seul homme. Et alors, si ce sont des gens qui ont vraiment du courage, mais qu'ils disent à cet homme-là, on en veut à lui, mais on n'en veut pas au peuple libanais. Vous ne pouvez pas être le frère du peuple libanais et le poignarder dans le dos parce que l'un de ses membres aurait fait des déclarations et qu'il était simple citoyen. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est innommable, c'est criminel. Les Saoudiens démontrent qu'ils sont criminels dans l'âme. Ils assassinent le peuple yéménite. Aujourd'hui, ils sont en train d'assassiner une deuxième fois le peuple libanais. Je suis en colère, c'est vrai, et ça s'entend, mais je ne supporte plus les Saoudiens dans leur comportement. C'est un comportement purement abject et criminel.
Maître Develé, le mot de la fin vous appartient. Nous avons une minute devant nous.
Oui, encore une fois, je pense que c'est complètement irresponsable pour les Saoudiens de jouer avec le feu comme ça et d'aggraver la situation pour des calculs complètement désuets, j'allais dire. Il convient à un moment donné de nommer les choses et de laisser le peuple libanais, au travers des institutions et au travers de ces différentes branches de gouvernement, fonctionner de telle sorte que une sortie de crise puisse être contemplée.
Merci.
Plus le temps avance et plus on s'aperçoit qu'en fait les Saoudiens, mais pas que, pour des intérêts personnels, sont prêts à sacrifier le bien-être du peuple libanais. Et cela devrait être dénoncé, ainsi que Maître Chami vient de le faire.
Merci infiniment, Maître Arnaud Devolé, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître André Chami, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans cette émission Focus. La crise afghane est l'héritage des ingérences et des puissances oppressives dans notre région, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdullahian. La crise qui nous inquiète tous aujourd'hui est l'héritage des interventions redéplacées des puissances oppressives dans notre région. Il y a 20 ans, les États-Unis envahissaient l'Afghanistan sous prétexte de lutte contre le terrorisme et en poursuivant leur présence militaire, ils perpétuaient et reproduisaient l'instabilité, la guerre et l'insécurité dans ce pays, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdullahian a déclaré cet après-midi lors de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan qui s'est tenue à Téhéran. Je salue la présence des ministres des Affaires étrangères et des représentants de haut rang des pays voisins de l'Afghanistan à Téhéran et j'espère que cette réunion pourra concrétiser la volonté de tous les pays participants de jouer un rôle constructif dans l'intérêt du peuple afghan et de la région. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que cette réunion était le deuxième cycle de l'initiative que le Pakistan avait lancée en organisant une réunion virtuelle des voisins d'Afghanistan. La crise qui nous inquiète tous aujourd'hui est l'héritage de l'intervention mal visée des puissances oppressives dans notre région. Washington, sans faire avancer l'Afghanistan et son peuple, a maladroitement et de manière irresponsable fui la scène et a créé une situation à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui, a-t-il déclaré. Se référant à la géographie de la région, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous sommes les voisins de l'Afghanistan, chacun étant d'une manière ou d'une autre lié à cette géographie, à ses habitants, bien conscients de l'importance du manque de consensus au sein de l'Afghanistan. » Il a déclaré qu'en Afghanistan, nous sommes confrontés à une situation qui est loin d'atteindre tout le point des différentes ethnies et des groupes pour atteindre un point acceptable pour en fait de tout le peuple afghan. Selon Amir Abdullahian, jusqu'à présent, l'approche des pays voisins, en raison de leur profonde compréhension de la situation en Afghanistan, a été largement constructive, cohérente et tournée vers l'avenir. Et il existe un consensus relatif sur les questions clés. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Borelikhani, a déclaré que Téhéran cherchait un résultat tangible pour son peuple dans les nouveaux pourparlers de Vienne axés sur la levée des sanctions oppressives contre la nation iranienne. Avant d'indiquer, la Russie et la Chine ont également soutenu des pourparlers axés sur les résultats réclamés par l'Iran.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi dans les négociations pour la levée des sanctions illégales et oppressives contre la nation iranienne. On s'attend à ce que ces deux pays, à savoir la Russie et la Chine, aient une bonne coopération et être en harmonie avec les positions de la République islamique d'Iran lors des négociations sur la levée des sanctions avec des 4 plus 1. Se référant à ses entretiens avec Enrique Mora, coordinateur de la commission mixte du plan global d'action conjoint à Téhéran et à Bruxelles, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a précisé: nous avons eu des entretiens à Téhéran puis à Bruxelles, nous avons eu des discussions constructives, sérieuses et franches avec M. Mora à Bruxelles dans le but d'entamer des pourparlers à Vienne et pour un nouveau cycle de rencontres visant à lever les sanctions illégales et oppressives contre l'Iran. Au Liban, le Hezbollah a salué la prise de position courageuse exprimée par le ministre libanais de l'Information, Georges Dordaï, concernant son appel à la fin de la guerre saoudienne contre le Yémen. Le Hezbollah salue la prise de position courageuse et honorable du ministre de l'Information, M. Georges Dordaï, relevant de son expérience médiatique, de son moral et de son patriotisme dans la défense du peuple yéménite opprimé. Il a bien fait de qualifier d'agression la guerre saoudo-émiratie qui a conduit à des effusions de sang, tuant des centaines de milliers de personnes et assiégeant tout un peuple menacé par la famine et les maladies, a écrit dans son communiqué le Hezbollah libanais. Le Hezbollah a par ailleurs condamné la campagne injuste menée par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Conseil de coopération du Golfe Persique à l'encontre de M. Dordaï, affirmant qu'il s'agit d'une agression contre la souveraineté du Liban, la liberté d'expression de ses citoyens, loin des craintes et des menaces et un chantage inacceptable qui remet en cause la dignité de chaque Libanais. Le ministre pakistanais de l'Information a souligné la disposition de son pays à coopérer avec la Syrie dans tous les domaines, notamment l'information. C'était lors de sa rencontre avec le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Syrie à Islamabad, avec qui il a examiné les moyens de consolider la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment dans les domaines de l'information et de la culture, et de profiter des expertises syriennes dans la traduction d'œuvres de cinématographiques et télévisuelles pakistanaises en arabe. Les deux parties ont également discuté de la participation d'artistes syriens au festival organisé au Pakistan. Pour sa part, le chargé d'affaires des Syriens à Islamabad a souligné le rôle important que les informations des Syriennes avaient joué pendant la guerre des terroristes visant la Syrie dans la confrontation de l'information occidentale de tromperie qui l'avait pris pour cible. Le secrétaire général du mouvement de résistance islamique d'Irak, Al-Nujaba, déclare que c'est uniquement par le tonnerre des canons que le peuple irakien pourra récupérer la souveraineté du pays et libérer des griffe de l'ennemi occupant. Akram al-Kabi, le secrétaire général du mouvement de résistance islamique de Dirag al-Nujaba, a condamné dans un tweet la poursuite de la présence des forces d'occupation américaines en Irak. Al-Kabi a souligné que le gouvernement maléfique des États-Unis continuait de s'opposer à la décision du peuple irakien d'expulser toutes les forces étrangères du pays avec coercion et arrogance. Malgré l'annonce faite par le gouvernement irakien, l'annonce par le gouvernement irakien que l'occupation prendra fin en 2 décembre, cela ne s'est pas produit, a-t-il déclaré. Akram al-Kabi a poursuivi, selon les informations reçues, les forces d'occupation américaines ont modifié certaines des routes illégales menant à l'Irak et continuent actuellement à transférer leurs forces dans ce pays. Des éléments américains dont le nombre est toujours assez élevé entrent en Irak depuis Washington par l'intermédiaire des compagnies aériennes égyptiennes, a-t-il précisé. Le secrétaire général al-Nujaba a également souligné que certaines des forces américaines vaincues en Afghanistan avaient été transférées en Irak, ce que signifie que les négociations politiques avec les États-Unis ont une fois de plus prouvé leur échec. Pour ce haut responsable d'Al-Nujaba, c'est uniquement par le tonnerre des canons que le peuple irakien peut en fait récupérer la souveraineté du pays et le libérer des griffes de l'ennemi occupant qui pille les ressources du pays et cherche à provoquer la sédition par une intervention ouverte. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.